et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes, nos experts ici à Paris, à la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion, vous le savez, de nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Donc s'il vous manque des clés ou des repères, appelez-nous, surtout n'hésitez pas et n'attendez pas évidemment le début de l'émission pour nous rejoindre. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Dans 30 minutes, comme tous les jours, un débat et nous parlerons tout à l'heure de l'avenir du régiment de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Sur place, la question fait polémique. Faut-il dissoudre cette unité d'élite qui, pendant 27 ans, a été au service exclusif de l'ex-président Blaise Compaoré? Que vont devenir ces 1300 soldats? En tout cas, la société civile réclame sa dissolution. Beaucoup s'interrogent évidemment sur l'utilité de maintenir ce corps de l'armée burkinabé après la chute de Blaise Compaoré. Vos réactions, 33 9 693 693 70. Et évidemment, si vous nous appelez de France, vous composez le 09 693 693 70. Vos questions à la rédaction. Une première question concernant la tournée européenne de David Cameron. C'est Jean-Jacques qui nous appelle du Cameroun. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Vous êtes à Malbayo. Malbayo, c'est au sud de Yaoundé, à une quarantaine de kilomètres. On vous écoute.
Oui, au lendemain de sa réélection, le Premier ministre Cameroun a entrepris une tournée européenne pour convaincre ses partenaires européens de réformer l'Union européenne. Alors ma question, je voulais savoir quelles sont ces réformes.
Ah, bonne question, puisque c'est vrai que pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est un peu le flou artistique. Hein. Bonjour Muriel Delcroix.
Bonjour Juan, bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Londres. Alors c'est vrai que dans la perspective du référendum sur l'appartenance britannique à l'Union européenne, eh bien David Cameron rencontre tous ses partenaires européens pour défendre son plan de réforme de l'Union européenne. Concrètement, quelles sont ses revendications? On a l'impression que voilà qu'il n'y a pas de liste claire pour l'instant.
Non, c'est vrai. Et la question que pose Jean-Jacques, eh bien, c'est une question que se posent beaucoup de leaders européens, en fait. Parce que le gouvernement britannique reste le plus vague possible en public, probablement pour garder la main haute sur les négociations en privé. David Cameron a prévenu qu'il ne révélerait pas dans le détail ses demandes, mais il a quand même donné une idée générale de ses priorités. Alors, on sait par exemple que le Premier ministre voudrait mettre un frein à l'immigration européenne. L'arrivée de nombreux travailleurs de l'Europe de l'Est depuis 2004 est de plus en plus mal vécue par les Britanniques. Et au départ, David Cameron avait envisagé d'imposer des quotas aux frontières, une suggestion qui a été catégoriquement rejetée par les autres membres de l'Union européenne parce que ça aurait remis en cause, en fait, le principe de libre circulation des personnes au sein de l'Europe. Du coup, à la place, David Cameron demande désormais à ce que les nouveaux venus européens n'aient pas le droit aux allocations sociales pendant 4 ans, dans le but de les décourager à venir travailler en Grande-Bretagne. Mais c'est une demande qui ne plaît pas aux pays de l'Est, qui font valoir que cette mesure serait discriminatoire.
Oui, et David Cameron souhaite également pouvoir expulser les Européens demandeurs d'emploi après 6 mois de chômage. Muriel, on a beaucoup entendu Londres se plaindre des lourdeurs bureaucratiques de l'Union européenne. Est-ce que ça fait partie des revendications de David Cameron ?
Absolument. Londres veut depuis longtemps réduire ce qu'il appelle la paperasserie administrative et ce qu'il juge être des interférences de Bruxelles pour améliorer, dit-il, la compétitivité de l'Union européenne. Il souhaite aussi approfondir le marché unique dans des domaines comme l'énergie ou le digital, mais il veut dans le même temps accélérer les négociations internationales de libre-échange, notamment pour s'ouvrir vers les États-Unis et l'Asie. Enfin, les autres revendications tournent autour de la souveraineté de la Grande-Bretagne. Londres voudrait être exempte de l'ambition européenne de forger une union sans cesse plus étroite des peuples d'Europe. David Cameron souhaite aussi que les parlements nationaux aient plus de pouvoir pour pouvoir bloquer la législation venant de Bruxelles. Et puis, il veut par ailleurs protéger une spécificité britannique. Vous savez, la puissante City, la place financière de Londres. Le gouvernement dit qu'il comprend que la zone euro aspire à mieux s'intégrer, mais il demande que les pays qui n'ont pas adopté la monnaie unique n'en pâtissent pas. Et il veut ainsi éviter que de nouvelles régulations financières au sein de cette zone euro aient un impact négatif sur la City.
Et pour l'instant, Muriel, comment se passent les négociations? Est-ce que l'accueil est chaleureux ou pas quand il va dans les différentes capitales européennes?
C'est difficile. La première tournée que David Cameron a entamée est passée notamment par la Pologne, la France et l'Allemagne, et ça a été mitigé. L'accueil a été par exemple plutôt froid à Paris et Varsovie et plus encourageant à Berlin, où on sait que la chancelière Angela Merkel est attachée à un Royaume-Uni solidement ancré dans l'Union européenne. Mais par exemple, certaines demandes de Londres impliquent de rouvrir les traités européens, et beaucoup de membres sont opposés à cette idée parce que ce serait long, fastidieux dans une union à 28 et qui doit être d'accord à l'unanimité, et puis ça créerait un précédent. Si on permettait à la Grande-Bretagne de modifier les textes parce que telle ou telle clause ne lui plaît pas, les autres membres revendiqueraient le même droit et ça ouvrirait une véritable boîte de Pandore. Donc pour l'instant, tout le monde reste assez prudent sur les concessions possibles ou à l'inverse sur les lignes rouges à ne pas dépasser, et peut-être qu'on en saura un petit peu plus lors du prochain sommet européen fin juin.
Ah oui, sommet qui se tiendra les 25 et 26 juin. Merci beaucoup Muriel Paradon. Jean-Jacques, merci de nous écouter à Malbayo dans le sud du Cameroun, et c'était Muriel Delcroix évidemment à Londres, Muriel Paradon étant elle à Jérusalem. Vos questions à la rédaction, il est 10h17 à Paris. Anastasia Becchio du service international nous rejoint à l'instant. Bonjour Anastasia.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir ce matin. On a reçu des questions sur l'Ukraine, un dossier que vous connaissez bien. Vous avez eu l'occasion ces deux dernières années d'être sur le terrain à plusieurs reprises pour RFI. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes en Allemagne.
Oui.
On vous écoute.
Bonjour à tous les fidèles auditeurs de RFI ainsi qu'à vos excellents techniciens.
Merci pour eux.
Et depuis quelques jours, on a enregistré les combats les plus violents dans l'est de l'Ukraine depuis février. À cet effet, j'ai quelques questions à vous poser.
Oui.
Qu'est-ce qui explique la flambée de ces violences? Quel est l'état de rapport de force entre l'état ukrainien et les séparatistes?
Ouais, c'est vrai que les combats de la semaine dernière sont considérés comme les plus meurtriers de ces derniers mois. Depuis le mois de février, disiez-vous Abdoulaye, donc depuis la signature des accords Minsk 2, Anastasia Becchio, un millier de séparatistes pro-russes qui attaquent la ville de Mariinka, proche de Donetsk, 26 morts, majoritairement des séparatistes. Comment expliquer cette nouvelle escalade de la violence?
Alors, c'est toujours très délicat d'analyser les causes de telles batailles, d'autant qu'on ne sait pas vraiment comment ont débuté les hostilités, puisque chaque camp accuse l'autre de provocation. Alors il faut regarder qui a intérêt à faire monter la tension. Si on se place du point de vue des pro-russes, ils pourraient chercher tout simplement à gagner du terrain pour éloigner les forces ukrainiennes de Donetsk. Or, Mariinka est une localité qui jouxte Donetsk, qui est située quasiment dans sa périphérie. L'idée serait donc de repousser un peu plus cette ligne de front, puisque Mariinka est tenue par les forces ukrainiennes. Les séparatistes, eux, se défendent d'avoir mené l'assaut, mais on dispose quand même d'un rapport assez détaillé de la mission d'observation de l'OSCE, qui a noté des déplacements d'artillerie lourde de Donetsk vers la zone où s'est produite la bataille avant et pendant les combats. Or, Donetsk est tenu par les pro-russes. L'OSCE a aussi entendu des tirs sortants de la zone sous contrôle des pro-russes. Il semble, quoi qu'il en soit, que les combattants séparatistes aient subi des pertes importantes, ce qui pourrait expliquer pourquoi les combats ne se sont pas poursuivis. Pourquoi maintenant ça s'est calmé dans cette zone en tout cas. Entretenir un climat de tension, provoquer des incidents, ça peut être aussi un moyen de montrer à la communauté internationale que les choses n'avancent pas vraiment. Or, on était à quelques jours de la grande réunion internationale du G7, le sommet du G7, exactement, qui se tient en ce moment même en Allemagne, et où il doit être question, il va encore être question aujourd'hui, de l'Ukraine. Maintenant, si on se place du point de vue ukrainien, une bataille comme celle de l'année dernière leur permet une nouvelle fois de pointer le non-respect des accords de Minsk par les séparatistes, de dénoncer une nouvelle fois l'aide qui viendrait de Russie. Le président Porochenko a indiqué que plusieurs militaires russes avaient été tués et qu'un avait été capturé. Un tel incident leur permet donc de dire aux Occidentaux, il faut que vous mainteniez la pression sur Moscou et que les sanctions continuent.
Voilà, et pour l'instant, il n'est pas question évidemment de supprimer les sanctions contre Moscou. Abdoulaye nous demandait quel était le rapport de force sur le terrain. Le président Porochenko, donc le président ukrainien, parle lui de 9000 soldats russes déployés dans tout l'est de l'Ukraine. J'imagine que c'est difficile, évidemment, de vérifier cette information.
Évidemment, c'est très délicat de vérifier de telles informations. Alors, selon les instituts américains qui ont publié des chiffres il y a 2 mois, les combattants pro-russes seraient au nombre de 29 000. Mais bon, il ne s'agit que d'évaluation. Ce à quoi il faudrait ajouter ces 9 000 militaires russes qui opéraient dans les rangs des séparatistes. Je rappelle que la Russie ne nie pas qu'il y ait des combattants russes dans les rangs des séparatistes, mais ils disent que ce ne sont pas des soldats en activité, qu'ils ont quitté l'armée ukrainienne. Du côté ukrainien, après la bataille de la semaine dernière, le président Porochenko a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de maintenir un contingent de 50 000 hommes, tant le risque de reprise des combats était élevé selon lui. Alors si on prend une carte du Donbass dans son ensemble, les régions de Lugansk et Donetsk, les forces ukrainiennes en contrôlent environ 2/3, mais les séparatistes ont le contrôle d'une bonne partie de la frontière russe, environ 400 km, ce qui est un avantage certain, notamment pour l'acheminement des armes et des combattants.
Allez, Abdoulaye, vous avez une dernière question.
Oui, une dernière question. Et quelles sont les conséquences de ces affrontements sur l'accord de Minsk 2?
Alors, l'accord signé donc en février dernier, qui a plus ou moins été respecté jusqu'à présent. Hein.
Oui, mais il faut d'abord voir comment vont évoluer les choses. On ne peut pas pour le moment parler d'une reprise des combats à grande échelle. Il y a eu cette bataille qui, semble-t-il, a tourné au désavantage des séparatistes. Dans le même temps, l'OSCE note une intensification des échanges de tirs en plusieurs points. Dans le cas d'une reprise à grande échelle des combats, les accords de Minsk peuvent évidemment mener en éclat. Et puis, plus généralement, les affrontements n'aident pas à mettre en œuvre les autres points de l'accord de Minsk, notamment le dialogue politique qui doit aboutir à la tenue d'élections locales et la levée par Kiev du blocus économique de la région sous contrôle séparatiste.
Merci Anastasia Becchio d'être venue répondre donc à Abdoulaye. Vos questions à la rédaction, des questions maintenant sur les drames de l'immigration clandestine en Méditerranée, la mobilisation de l'Europe pour lutter contre les filières de migrants. Rien que ces 2 derniers jours, près de 6000 migrants ont été secourus en Méditerranée. Bonjour Fifi.
Et bonjour Anne.
Vous nous appelez du Mali, vous êtes à Bamako.
Oui, bonjour auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Alors Anne, j'ai appris par les médias que les États membres de l'Union Européenne, face au phénomène de la migration, ont pris des mesures pour stopper ces événements dramatiques que nous voyons presque quotidiennement en Méditerranée. Du coup, j'ai envie de savoir les moyens mis en œuvre par l'Union Européenne pour identifier les passeurs et arrêter ce trafic.
Oui, puisque effectivement, il y a quelques semaines, l'Europe annonçait le lancement d'une opération navale contre les trafiquants en Méditerranée. Et le principe, c'est d'abord d'identifier et ensuite de s'attaquer aux bateaux utilisés par les passeurs. Mathieu Tardis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, au Centre Migration et Citoyenneté. Concrètement, de quels moyens dispose l'Europe et quels sont les moyens actuellement déployés en Méditerranée?
Alors, Il y a l'opération Triton qui a été étendue, donc avec des moyens de navires et de surveillance. Mais là, ce qu'on va observer, ce qu'a décidé l'Union européenne, c'est la mise en place d'une opération militaire. Donc à ma connaissance, c'est la première fois qu'on met en place donc des moyens militaires pour lutter contre l'immigration irrégulière. Donc le 18 mai dernier, un plan d'action a été adopté par les ministres des Affaires étrangères, le ministre de la Défense de l'Union européenne, avec la représentante de la diplomatie européenne. Donc c'est un plan qui a pour objectif de casser le business model des passeurs, comme et je cite la chef de la diplomatie européenne. Et ce plan prévoit 4 phases. Donc, vous l'avez dit, une première phase d'identification et de surveillance des réseaux. Donc, là, avec l'utilisation des moyens de renseignement, y compris, et c'est prévu, l'utilisation des satellites. Mm-hmm. Donc là, c'est aussi des navires militaires qui vont aller au bord des côtes libyennes dans les eaux internationales et utiliser donc les moyens de renseignement pour essayer d'identifier les réseaux de passeurs. Et ensuite, on passe à une deuxième phase, une phase de saisie des navires des passeurs. Donc dans les eaux européennes, internationales ou libyennes, et puis ensuite une troisième phase de destruction de ces navires, ouais. Pareil, côte européenne, côte eau internationale et côte libyenne.
Et quand on dit destruction des navires, est-ce qu'il s'agit de les bombarder? L'idée avait été évoquée un premier temps par certains dirigeants européens. Finalement, qu'en est-il?
Alors, quand on parle de destruction des navires, non, c'est pas de les bombarder. Après, c'est c'est d'abord la saisie. Il y aura forcément des migrants sur ces navires. Donc l'objectif n'est pas non plus de faire chavirer ces bateaux avec les migrants. Mais le plan d'action n'exclut pas la possibilité de vie humaine perdue dans le cadre de cette opération, et y compris de migrants. Et je pense qu'au final, ce seront les migrants qui vont être les principales victimes de ce plan, sans qu'il y ait vraiment une efficacité en termes de lutte contre les passeurs. Il faut savoir qu'on est dans un cadre d'un business. Alors la Libye, c'est un peu particulier aujourd'hui, mais c'est avant tout un business avec des gens qui répondent à un besoin. Et le besoin des migrants de passer, il existe et il existera encore. Et les passeurs et les migrants vont s'adapter. Et déjà, on voit que d'autres routes migratoires, plus vers l'Est, commencent à devenir de plus en plus importantes. Ouais. À chaque fois qu'il y a eu des opérations, alors j'ai jamais eu d'opérations militaires jusqu'à présent, mais à chaque fois qu'il y a eu des opérations de contrôle des frontières en Europe, et ça fait 10 ans hein, que ce phénomène dure, on a vu un phénomène de déplacement des flux migratoires. Mmh.
Donc vous êtes dubitatif sur le succès de cette opération militaire, opération navale. Merci beaucoup Mathieu Tardis de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. 33 9 693 693 70. Ambroise est à Paris, il nous appelle. Bonjour Ambroise.
Oui bonjour, je suis à Cachan dans la région Île-de-France.
À Cachan, tant pour moi. On vous écoute, vous avez des questions sur le Burundi?
Oui, une seule question, hein, c'est bonjour à tous les auditeurs, hein, bonjour à vous-même. Alors, depuis bientôt 2 mois, la crise couve au Burundi, avec la décision du président de la République de Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Alors, nous sommes déjà à ce jour à environ 40 morts, et je me pose la question de savoir pourquoi la France se tait. Je n'entends pas la voix de la France, je n'entends pas la voix de la diplomatie française. Où est-elle ?
Alors, Sonia Rollet, qui est à mes côtés, va vous répondre. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique d'RFI, vous avez passé 5-6 semaines hein, récemment sur place, sur le terrain au Burundi. La France est-elle silencieuse sur le dossier burundais ?
Alors, pas exactement, puisqu'il y a eu encore une déclaration tout récemment de François Hollande à l'occasion de la visite du président Kafando, le chef de l'État burkinabé, où il a eu un petit mot quand même sur le Burundi. Il a notamment parlé d'un exemple à suivre, que le Burkina était un exemple à suivre pour le Burundi. Donc ça, c'est vrai que c'était un mot un peu comme ça, à l'occasion de cette visite du chef de l'État burkinabé, qui était un petit peu surprenant, dans le sens où, effectivement, il n'y a pas eu des déclarations continues sur le Burundi de la part de la France. Il y en a quand même eu le 13 mai, des déclarations à la fois de l'Élysée et du Quai d'Orsay. C'était au moment, en fait,
Juste après
la tentative du coup d'État, où là, il y avait une déclaration qui était sur l'arrêt des violences, à peu près comme tout le reste de la communauté internationale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la France n'a pas une position facile dans la région. Et effectivement, il y a un passif de la France dans la région qui lui est beaucoup reproché, notamment dans le pays voisin, le Rwanda. Et donc, c'est vrai qu'on sent que la France marche un peu sur les œufs dans la région, et donc préfère laisser en avant l'Union européenne. Alors, ce que disent toujours les diplomates français, c'est nous, on soutient la position de l'Union européenne. Et la position de l'Union européenne a une position qui est assez claire sur ce qui est souhaité, en tout cas pour le Burundi.
En tout cas, il y a des pays membres de l'Union européenne qui ont une position bien plus ferme que la France. La Belgique, par exemple, a été très claire, dit, nous arrêterons notre aide en cas de troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Ah, c'est sûr que dans la communauté internationale, on voit très clairement qu'il y a des pays qui ont une position assez dure. On voit les États-Unis, on voit notamment la Belgique, il y a aussi les Pays-Bas, la Suisse. Donc tous ces pays-là, effectivement, et même l'Allemagne, on va le voir, mais tous ces pays-là ont effectivement une position qui est très très avancée, en fait, en tout cas sur les dossiers, et très, on va dire, assez hostile hein, au président en place. C'est vrai que la France a du mal à prendre des positions aussi clair, et on sent effectivement une... C'est assez difficile à dire, mais c'est vraiment une retenue, c'est vrai. Et c'est ce qui est ressenti au Burundi, effectivement, la population le ressent, et puis les autorités le ressentent aussi. Et donc, je pense que ça s'explique essentiellement par le passé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand il y a eu cette tentative de coup d'État, la France a voulu envoyer des gendarmes pour protéger l'ambassade, et ça a fait toute une histoire au Burundi, et qu'elle a été accusée par les gens proches du président de vouloir soutenir les putschistes, et elle a été accusée par les autres de vouloir même préparer un génocide au Burundi. donc on voit que c'est une position qui n'est vraiment pas facile dans la région et pas facile dans le pays non plus.
En tout cas, la France a gelé sa coopération sécuritaire avec le Burundi dans les domaines de la police et de la défense. Merci Sonia Rollet. Bonne journée Ambroise. Restez avec nous tout de suite, le journal.